Merci d'être là, toujours de plus en plus fidèle à ce rendez-vous donc du Pôle Info Santé. J'espère que vous êtes en pleine forme, mais pas trop mal. Parce qu'en général, quand on écoute les médecins et le docteur, on a mal après. Hein. C'est comme, vous savez, on a fait des trucs sur les rages de dents, personne n'avait mal aux dents, et en repartant, tout le monde était comme ça. Donc ça risque d'être un peu pareil. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc c'est un nouveau rendez-vous Pôle Info Santé qui a été créé il y a une vingtaine d'années maintenant. Info Santé, donc, qui est le fruit d'un partenariat entre le CHU de Poitiers, dont la mission est évidemment l'éducation, entre autres l'éducation à la santé, et puis l'espace Mendès France, centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, bien, c'est de vous permettre à vous, grand public, de connaître, d'échanger avec des professionnels du milieu hospitalier, des généralistes aussi, voilà, d'échanger sur le sujet. Nos intervenants vont se présenter dans un instant, enfin je vais les présenter, puis ils vont intervenir chacun leur tour. Nous allons aujourd'hui évoquer, vous le savez, le traitement de la douleur, une approche contemporaine, c'est la thématique de cette soirée. À la fin des exposés, je viendrai vers vous avec mon micro et vous pourrez poser toutes vos questions à nos trois drôles de dames. Attention quand même à ne pas poser de questions trop personnelles, parce qu'évidemment, elles n'ont pas vos dossiers médicaux sous les yeux. Donc essayez de généraliser un maximum la question pour que tout le monde puisse se sentir concerné, si vous le pouvez, ça serait super. Si vous êtes timide et que vous ne souhaitez pas intervenir, tant le micro. C'est possible. Vous avez théoriquement, dans les documents qu'on vous a distribués à l'entrée, un papier pour pouvoir noter des questions. Alors, je vous demanderai juste un truc pour moi, parce que je vieillis au fur et à mesure, ça fait déjà 20 ans qu'on fait, d'écrire le plus lisiblement possible pour que je puisse, moi, après, lire votre question auprès de nos spécialistes. Vous avez également des documents, donc ils vont compléter l'ensemble des informations que l'on va vous donner. Parmi ces documents, il y a une fiche d'évaluation. Alors elle est très très importante, je le répète à chaque fois, parce qu'elle nous permet à nous, à l'organisation CHU, à Mendès France, de pouvoir faire de mieux en mieux et que ces conférences soient de plus en plus sympathiques et instructives aussi. Donc n'hésitez pas à la remplir et puis on vous la récupérera tout à l'heure en fin de session. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables, évidemment de ne pas répondre à un coup de fil pendant la conférence, tout simplement parce que cette conférence va être enregistrée. C'est pour ça que nos trois intervenantes vont avoir un micro sous les yeux, la bouche, sous les yeux aussi d'ailleurs, et que moi, quand je vais venir vous voir dans la salle pour que vous posiez vos questions, je tiendrai le micro et je vous le mettrai assez proche de la bouche. C'est pas pour vous embêter, mais c'est simplement pour qu'on puisse enregistrer votre voix. Je vous explique pourquoi. Vous allez pouvoir, comme ça, quand vous le souhaitez, aller sur le site de Mendès France ou du CHU et réécouter tout ce qu'on s'est dit ce soir. Si vous n'avez pas eu le temps de noter des choses, ça vous permettra d'avoir un complément. Donc bienvenue à cette 107e même déjà, 107e rendez-vous pour l'info santé ici, conférence pour l'info santé à l'espace Mendès France. Je vais vous présenter nos trois intervenantes. Docteur Élodie Charrier, médecin au Centre régional d'études et traitements de la douleur au CHU de Poitiers. Bonsoir. Marie-Aliette Costa-Fournel, spécialiste en médecine alternative et médecine chinoise et néphrologue également. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Véronique Magret, médecin généraliste et spécialiste de la douleur. Aussi, bonsoir à vous.
Bonsoir.
La prise en charge, les plaintes des patients, la médecine alternative, les traitements, etc. Nous allons voir bien sûr tout cela ensemble et je vous propose de démarrer tout de suite.
Donc vous m'entendez bien ? Parfait. Donc j'ai le privilège de commencer. On est là toutes les trois pour parler de la douleur qui est en fait une expérience que chacun de vous, chacun de nous a fait. Le tout. Ah oui, je pensais qu'il fallait. C'est à nous de les mettre. Excusez-nous, il faut mettre les diapositives. Bon, donc chacun de nous a fait l'expérience de la douleur. Elle est au cœur de la médecine générale, au cœur des consultations, au cœur de la médecine tout court, en fait, tout simplement, puisque pendant toutes nos études, on nous enseigne domaine après domaine les douleurs liées aux pathologies. Donc on sait qu'une douleur du foie va irradier vers l'épaule, une douleur du cœur va aller plutôt vers la mâchoire ou vers le bras gauche. Et finalement, la douleur est constamment dans toutes nos études. À la fin de notre thèse, on prête, comme vous le savez, le serment d'Hippocrate. Et même dans ce serment, on nous parle de la souffrance. qui est un terme plus général, mais qui s'apparente quand même à la douleur. Donc je voulais camper ce cadre légal et déontologique pour vous montrer que finalement, la douleur a une part primordiale dans nos études de médecine, dans notre rôle de médecin évidemment, mais également la société, au sein de la société, puisqu'elle est également extrêmement présente avec une part du code de la santé publique qui détaille même la prise en charge. On ne parle pas de la tension artérielle, on ne parle pas de la fièvre, mais on parle de la douleur. Voilà. Mais malgré cette expérience qui est quotidienne, quand on cherche à donner une définition de la douleur, tout de suite, ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de multifactoriel. Donc, en fait, la définition qui a été retenue du point de vue international par les sociétés savantes, notamment américaines, est celle-ci. Donc, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en des termes évoquant une telle lésion. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y semble au départ. Donc, on va un petit peu détailler cette définition ensemble pour que vous compreniez bien les différentes composantes de cette douleur. Parce que finalement, derrière, ça va avoir des conséquences à la fois sur la façon dont on vit la douleur et la façon dont on peut la prendre en charge. Donc, ce que l'on voit, c'est que c'est une expérience sensorielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un sens, au même titre que le toucher, que la sensation de chaleur ou de froideur. Et donc, il y a un circuit nerveux que l'on connaît très bien. Vous vous tapez un ongle avec un marteau. On sait que c'est telle cellule qui se charge de la douleur, avec un nerf en particulier qui va véhiculer cette sensation et qui va arriver au niveau de la colonne vertébrale, puis monter au cerveau dans une zone qu'on connaît bien. Ça, c'est la partie, on va dire, scientifique qui est descriptive. Et puis, on sait qu'il y a une part émotionnelle également. Cette part émotionnelle, elle est omniprésente. Vous avez tous fait l'expérience d'une douleur avant d'aller passer un entretien d'embauche ou avant d'aller à un examen, vous avez mal au ventre. C'est un des exemples les plus flagrants de ce que peut donner la peur et qui influence la douleur. Ça, c'est pour les émotions négatives. Mais en positif, on peut aussi avoir des événements douloureux qui ne vont être ressenti que très peu parce qu'il va y avoir une émotion positive. Je vous donne un exemple. Au cours d'un match de basket, de foot, de ce que vous voulez, alors qu'on est très pris dans le match, qu'on est concentré sur la passe, sur le fait de partager le jeu, on peut très bien se cogner, avoir un hématome et s'en rendre compte que le lendemain, et on ne l'a pas senti. Ça, c'est une des preuves que cette émotion positive va avoir une influence directe sur la perception de la douleur. Autre exemple, bon, qui est le petit enfant qui a mal à la gorge, il va se retrouver dans le lit de ses parents, ça le rassure, et c'est également un signe que cette émotion va pouvoir calmer la douleur. Donc, ensuite, la fin de la définition qui parle de lésions tissulaires existantes ou potentielles ou décrites en des termes évoquant une telle lésion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, en matière de douleur, tout n'est pas objectif et il y a même une grande part de subjectivité, c'est-à-dire que finalement quelqu'un qui se casse le bras et qui a une fracture ouverte, bah oui, on voit bien, il y a une douleur, il a le bras cassé, c'est facile, mais celui qui a mal au bras mais qui a fait un accident vasculaire et qui a des séquelles, on le voit pas, mais il a aussi mal. Et celui pour lequel on ne comprend pas pourquoi il a mal, il a quand même mal aussi. Donc c'est l'idée que cette lésion, elle est là où on ne la voit pas, mais en tout cas, la douleur est présente. Donc, ces différentes composantes sont reprises ici. Donc, douleur, c'est un sens, douleur, c'est une émotion, et douleur, c'est également une pensée, parce qu'il faut aussi, c'est ce que nous, on appelle la cognition, il faut bien comprendre qu'il y a une part cognitive également dans ce facteur douloureux. Qu'est-ce qu'on met derrière cette cognition ? C'est simplement ce que l'on a pu comprendre, ce que l'on interprète de la douleur que l'on subit et qu'est-ce que l'on va mettre derrière. Il est bien évident que les deux mêmes personnes qui ont mal à la tête, si la première est une migraineuse connue, elle sent sa migraine arriver, elle va prendre son comprimé, elle sait ce qu'il passe, elle comprend ce qui se passe, excusez-moi, et il n'y a pas de problème. Elle va être soulagée par ce traitement et voilà, une même personne qui a mal à la tête, qui n'a jamais eu mal à la tête, qui dans sa famille a quelqu'un qui a eu une tumeur cérébrale ou un accident vasculaire cérébral, ça va avoir des conséquences complètement différentes sur la perception de cette douleur et ça va influencer vraiment négativement l'amplifier. Et donc, à partir de ces trois composantes, au final, la personne qui a mal a des comportements douloureux qui peuvent être complètement différents, hein, avec un comportement moteur, neurovégétatif ou psychomoteur. Donc ce schéma reprend exactement ce que je vous ai expliqué, avec le S pour le sens, le E pour émotion et le C pour la pensée, la cognition. Avec des comportements observables, donc, qui sont ici. Il est bien évident que ce schéma, il évolue pour la même personne au fil du temps, puisque la même maladie qui survient à 10 ans d'intervalle chez la même personne ne sera pas perçue de la même façon non plus. Donc tout ça, c'est très dynamique et ça bouge tout le temps. Donc en médecine générale, puisque je vous présente la partie médecine générale et douleur, il est bien évident qu'on a souvent affaire à des gens qui viennent parce qu'ils ont mal et que donc cette douleur les fait consulter le médecin qui va faire un diagnostic, trouver une cause et permettre soit des examens pour comprendre, soit de traiter directement parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien. On a mal à la gorge, on a une angine, on prend des médicaments pour soulager et puis on calme, on sait qu'on comprend ce qui se passe, le patient comprend ce qui se passe et finalement ça rentre dans l'ordre. Mais il y a un certain nombre de cas où la douleur peut devenir chronique. Donc qu'est-ce que c'est que la douleur chronique ? C'est une douleur qui va s'installer dans le temps. C'est quelqu'un qui va avoir mal tous les jours pendant 3 à 6 mois. Et à partir de là, il va y avoir un comportement douloureux qui va s'installer avec finalement une douleur qui va devenir une douleur maladie et qui va évoluer pour son propre compte. Et donc, dans ce cadre-là, on peut dire qu'on a affaire à une maladie à part, et au même titre que d'autres maladies, on doit être amené à voir un spécialiste dans ce domaine-là aussi. Et c'est à mon sens dans cette indication que les centres antidouleurs sont évidemment ont évidemment leur place et nous permettent de proposer des traitements spécifiques médicamenteux, mais également autres, hein, puisque en médecine générale, on est quand même assez limité avec les médicaments. Donc cette diapositive pour dire que je vais passer la main et que les consultations en douleur, si elles pouvaient être toujours des consultations soulagement, ça serait notre but à tous.
Donc bonsoir à tous. Alors je vais essayer de parler pas très fort parce que j'ai une voix qui porte en général. Donc moi je suis le docteur Charrier, je travaille depuis quelques années maintenant à temps plein au Centre Régional d'Études et Traitement de la Douleur. Et du coup aujourd'hui on m'a demandé de parler un peu plus précisément de l'organisation de la prise en charge en médecine générale. Médicale générale, pardon. Et donc je vais vous faire part un petit peu de ce qui se passe au centre antidouleur pour vous présenter un peu le centre antidouleur et notre activité au quotidien. Donc je vais revenir quand même sur ce qui vous a été dit, une douleur aiguë, parce que pour, c'est fondamental de comprendre vraiment la différence entre ce qu'est une douleur aiguë et une douleur chronique, puisque dans la prise en charge, si vous voulez, il n'y a pas du tout de rapport, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en charge une douleur aiguë, pareil qu'on prendra en charge une douleur chronique. D'accord ? Le raisonnement n'est pas du tout le même. Donc la douleur aiguë, normalement, c'est une douleur qui est limitée dans le temps. Elle est liée à un processus lésionnel, donc c'est-à-dire que normalement il y a une lésion tissulaire ou en tous les cas il y a un mécanisme générateur de cette douleur et c'est ce qu'on appelle une douleur par excès de nociception, c'est-à-dire que c'est un traitement qui va se prendre, qui va répondre très bien normalement à une prise en charge médicale simple et principalement en fait par le médecin généraliste puisque il va par son examen clinique et ou par la prescription d'examens complémentaires essayer de comprendre ce qui se passe et normalement si on traite la cause la douleur disparaît et normalement ça dure quelques semaines. Donc normalement nous dans un centre de la douleur on voit pas de douleur aiguë parce qu'elle est prise en charge par le médecin généraliste. Et une douleur chronique, donc c'est une douleur aiguë qui ne va pas évoluer telle qu'on l'a prévue, en tous les cas, et malgré la prise en charge qui aura été faite le plus souvent par le médecin généraliste, eh ben, cette douleur va perdurer dans le temps. Et plus elle perdure dans le temps, plus sa prise en charge va être plutôt plus complexe et difficile, et souvent... L'élément temporel va être plutôt 3 à 6 mois. D'accord ? À partir de 3 à 6 mois, on peut considérer qu'on entre dans le cadre de douleurs chroniques avec une réflexion médicale qui va être modifiée et différente de la prise en charge de la douleur en aiguë, puisque la plupart du temps, si on parle de douleurs chroniques, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement curatif. D'accord ? Donc la plupart du temps, les douleurs vont rester. On va pouvoir améliorer le symptôme, mais en tous les cas, il y a un risque de séquelles assez important et le séquelle va se traduire par une douleur. Donc c'est des prises en charge qui sont plus complexes et j'insiste aussi pour différencier les douleurs chroniques cancéreuses et non cancéreuses puisque là aussi, dans la réflexion et dans la prise en charge médicale, en tous les cas, on n'a pas du tout la même réflexion à avoir. Et donc moi, mon activité, dans 99% des cas, je fais de la douleur chronique non cancéreuse. Donc, nous, au centre antidouleur, on voit 99% des douleurs chroniques non cancéreuses. Et donc, je vais vous parler de notre pratique à nous, donc le Centre régional d'études et traitement de la douleur du CHU de Poitiers. En fait, on a une activité de consultation assez importante du lundi au vendredi. Donc, en fait, sur le centre antidouleur, on est 3 algologues, donc 3 médecins de la douleur. Vous avez le docteur Diallo, le docteur Misberg qui travaille à temps partiel et moi-même qui travaille à temps plein sur le CHU de Poitiers. Vous avez un rhumatologue qui n'a pas une activité rhumatologue quand il est au niveau du centre antidouleur, mais plus de la médecine manuelle, qui est le docteur Rose. Vous avez 2 médecins qui font ce qu'on appelle de la médecine alternative complémentaire et présente aujourd'hui Madame Costa Fournel, du coup, qui vous parlera de sa prise en charge. Et on a 2 médecins psychiatres associés à cette prise en charge par consultation. Vous avez des lits d'hospitalisation de jour qui nous aident à faire des infiltrations ou des gestes plus précis pour essayer d'améliorer le quotidien de tous les patients douloureux chroniques. Et en fait, on voit qui ? On voit des patients qui sont adressés par leur médecin. Et ce qui est important, c'est que finalement, on a toujours le cas de douleurs résistantes, puisque quand c'est simple et que le médecin généraliste arrive à bien prendre en charge les douleurs, souvent, il ne nous adresse pas les patients. Donc c'est vrai que nous, au niveau du centre, on voit les douleurs les plus résistantes. Et très souvent, et c'est très important, le bilan étiologique a été réalisé. Hein. Souvent, les patients arrivent avec leur biologie, les examens complémentaires qui ont été faits par le médecin généraliste ou aussi le médecin généraliste s'est adressé à des chirurgiens orthopédiques. Quand on parle patient adressé par un médecin, bien évidemment, ce n'est pas que le médecin généraliste, mais on a des neurochirurgiens. On travaille beaucoup avec les neurochirurgiens et l'équipe du professeur Rigoire. D'accord, dans tout ce qui est stimulation médulaire, entre autres. Du coup, on peut avoir des chirurgiens orthopédiques. On travaille beaucoup avec l'orthopédie, avec des douleurs post-opératoires, malgré leur prise en charge. Malheureusement, certaines douleurs persistent. Et une des douleurs post-opératoires orthopédiques qu'on voit beaucoup, c'est le syndrome douloureux vaginal complexe ou l'algoneurodystrophie. Hein. Voilà. Et puis ces douleurs, je mets le plus souvent chronique parce que, mais je pense que c'est quasiment que du chronique. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? Donc, souvent lors d'une consultation, d'une première consultation, on a un temps de consultation assez long. Hein, par exemple, pour ma part, en tous les cas, on est sur un créneau de 40 minutes. Qui permet de faire le point. Et j'insiste, parce qu'on peut nous trouver peut-être un peu intrusif, mais quand on entre dans le cadre de la douleur chronique, on a besoin de prendre en charge le patient dans sa vie, avec ses événements de vie, comment il est arrivé à ces douleurs-là, comment il vit avec, tout ce qui a déjà été essayé, les doses, le médicament, combien de temps, à quelle posologie. On a vraiment besoin d'un distrait précis et normalement par l'interrogatoire, il est très minutieux. Et voilà, on peut vous demander combien vous avez d'enfants, quel âge ils ont. Ça peut aider pour les femmes jeunes, par exemple, de savoir si elles ont besoin de s'occuper de leur enfant, si c'est les mobilisations du dos, etc. Aussi, on peut mettre des médicaments qui sont un peu sédatifs le soir, donc on a besoin de savoir s'il y a un bébé qui pleure, etc. Si la maman a besoin de se lever, il y a besoin d'avoir une vigilance plus importante que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc en fait, tout ce qu'on demande, il y a un intérêt vraiment pour notre pratique et l'adaptation du traitement. Et ça, c'est important, puisque le patient qui est douloureux chronique, il faut qu'on l'intègre dans son mode de vie à lui, avec ses activités à lui, pour justement avoir, et vraiment c'est un traitement, une prise en charge, et quand je dis traitement, c'est pas que médicamenteux, c'est vraiment un traitement à la carte pour une même pathologie. Je ne proposerai pas le même type de prise en charge aux patients que je verrai en consultation. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, au terme de la consultation, de la première consultation, on va proposer une prise en charge spécifique. Et en douleur chronique, on a un vrai rôle, et je l'ai mis à côté, d'éducation thérapeutique, puisque, et ça, ça me tient à cœur, on essaye d'avoir ce que j'appellerais une épargne médicamenteuse, c'est-à-dire que plus le sujet est jeune, et plus on va essayer de mettre le moins possible de médicaments pour tous les effets indésirables qu'on puisse avoir au long cours. D'accord ? Et c'est un raisonnement d'épargne médicamenteuse, j'appellerai. Donc, c'est vraiment un rôle d'éducation thérapeutique. On va éviter, à chaque fois que j'ai mal, de me dire « je prends un médicament parce que j'ai mal ». On va essayer de travailler sur une autre réflexion et un autre cheminement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? Bien évidemment, des traitements médicamenteux plus spécifiques. Et on voit beaucoup de douleurs neuropathiques. Et donc, les douleurs neuropathiques, on met des antalgiques spécifiques avec, certes, des effets indésirables, mais on les prévient, on fait des croissances thérapeutiques progressives. On peut proposer des traitements non médicamenteux. Alors, en chef de file, il y a l'électrostimulation transcutanée. C'est des petites électrodes qu'on peut coller au niveau d'un territoire douloureux. Voilà. Ça se discute. On peut proposer aussi en non médicamenteux ce qu'on appelle de la stimulation magnétique transcrânienne. Alors, je ne peux pas vous expliquer ce que sont toutes ces techniques-là, mais en tous les cas, la stimulation magnétique transcrânienne, une des deux indications principales serait des douleurs neuropathiques résistantes, mais à l'ensemble des prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses proposées, et aussi aux personnes présentant des syndromes fibromyalgiques. En tous les cas, ce sont des alternatives thérapeutiques possibles, mais bien évidemment, ça c'est le médecin de la douleur qui décide un peu ce qu'il va pouvoir proposer. On peut proposer des hospitalisations de jour pour réalisation de... Alors, ça peut être des traitements antalgiques, mais on peut faire des infiltrations, par exemple, dans des névralgies d'Arnold. Je sais pas, c'est des douleurs qui irradient au niveau du... en casque. J'essaie d'utiliser des termes simples. Mais on peut proposer tout genre d'infiltration ou de vraiment des gestes plus spécifiques. On peut proposer aussi des prises en charge psychologiques associées. Non pas... parce que douloureux chronique et dépressif, forcément, mais le fait d'avoir des douleurs en permanence, d'avoir une limitation des activités quotidiennes, ça engendre une frustration, et toute frustration peut avoir des altérations thymiques réactionnelles. Et bien évidemment, dans la douleur chronique, on est obligé d'en tenir compte, parce que souvent... En tous les cas, on peut avoir des inaptitudes au travail, des reclassements professionnels ou en tous les cas des activités professionnelles qui sont diminuées avec des répercussions financières la plupart du temps. Voilà. Les MAC, ce sont les médecines alternatives complémentaires avec l'acupuncture, entre autres, l'homéopathie, la médecine chinoise dont Madame Costa-Fournel vous parlera, les activités bien-être. Et donc ça, j'insiste, c'est ce que j'appellerais tout ce qui est sophrologie, relaxation, qigong, toutes ces techniques-là qui sont des techniques où le mindfulness, ce sont des techniques pour essayer de mieux vivre avec dans la gestion du stress, de l'anxiété. On peut avoir des résultats qui sont intéressants. Bien sûr, il faut adhérer à ces techniques-là. Et maintenant, avec les associations de quartier, ce sont des techniques et des prises en charge qui sont possibles à beaucoup puisque les coûts sont bien moins importants que ce qu'ils étaient encore il y a quelques années. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur ce qu'on peut proposer au centre antidouleur. Et vraiment, c'est un traitement à la carte, d'accord ? Le patient dans sa globalité, avec l'idée d'une épargne un peu médicamenteuse pour essayer de mieux vivre tout ça. Et c'est pour ça... C'est la grande différence avec la douleur aiguë, où là, on va pouvoir mettre tous les médicaments et toutes les prises en charge pour que la douleur disparaisse, parce que c'est un objectif qui est réalisable. En douleur chronique, c'est plus compliqué. Merci.
Alors, je prends la suite d'Élodie. Alors, vous venez d'avoir une présentation très globale et vous avez vu toute la richesse de ce qui peut être proposé au centre antidouleur. Et puis, on a la chance qu'il y a quelques années, le centre s'est ouvert aux médecines alternatives complémentaires. Alors, en fait, il y en avait déjà présentes, mais disons qu'il y a un développement récent depuis maintenant 4 ou 5 ans. Alors, j'excuse le docteur Jean Boucher, qui aurait dû être là ce soir, qui est l'autre médecin qui pratique les médecines alternatives complémentaires au centre. Et il n'a pas pu venir pour des raisons familiales. Il avait préparé un exposé, bien sûr. Et du coup, je vais juste présenter une petite partie de son exposé. Et par contre, toute la partie que je ne maîtrise pas, parce que c'est des choses que je ne fais pas, ce sera malheureusement... mais voilà, c'est présent dans le dossier. D'accord. Alors du coup, je m'excuse parce que j'ai un peu modifié mon topo et les diapositives ne vont pas correspondre exactement à ce que vous avez entre les mains. Alors, en introduction très générale, pourquoi finalement avoir recours à des médecines alternatives complémentaires ? Quel est l'intérêt dans notre pays occidental où il y a déjà une médecine extrêmement développée et riche et beaucoup de possibilités ? Eh bien, en fait, il y a une étude allemande qui a été faite il y a quelques années, qui est d'ailleurs reprise par l'OMS qui s'intéresse de près aux médecines alternatives complémentaires en politique de médecine mondiale. Et cette étude allemande qui a lieu il y a quelques années, qui a duré 5 ans, c'est une étude de suivi, 150 000 patients suivis en ville, suivi auprès de 200 médecins. Et parmi ces 200 médecins, un petit peu plus d'un tiers étaient des médecins qui avaient, en plus de la médecine générale occidentale, une pratique de médecine alternative, soit de l'homéopathie, soit l'acupuncture, soit la médecine anthroposophique. L'Allemagne est beaucoup plus développée que nous dans ce domaine. Nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Et en fait, ils sont aperçus que les patients qui étaient suivis donc, par des médecins qui avaient une deuxième corde à leur arc, finalement, avaient moins de morbi-mortalité. Alors, pour dire qu'en fait, ils étaient moins malades, ils avaient une meilleure espérance de vie. Ils subissaient moins d'hospitalisation, avec moins de prescriptions médicamenteuses d'une façon générale, que ce soit à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, donc un moindre coût pour la société. Donc la conclusion de l'étude, c'était finalement ces médecines alternatives complémentaires, même dans nos pays occidentaux, ont réellement un intérêt pour suivre les patients sur le court, le moyen ou le long terme. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces médecines alternatives ? Il y en a toute une liste que je vais vous donner après, en tous les cas, de ce qu'on fait au centre. Il y en a beaucoup. Moi, je vais vous parler que de quelques-unes, et plus spécifiquement de ce qui concerne la médecine chinoise. Et ce que je voulais dire sur cette diapo encore, c'est que donc c'est des médecines. Alors, on va bien sûr pas pouvoir tout évoquer ce soir, ce serait beaucoup, beaucoup trop long. Mais en tous les cas, elles apportent des réponses différentes. Elles posent des questions différentes au patient et à sa pathologie. Et elles apportent derrière des réponses différentes. C'est en ce sens qu'elles sont très complémentaires de ce que fait la médecine occidentale. Et pas du tout, il n'y a aucun inconvénient à faire les deux en même temps. Au contraire, il y a même très probablement souvent une synergie quand on pratique les deux. Alors, qu'est-ce qui est pratiqué au centre antidouleur ? Alors, docteur Jean Boucher et moi-même, nous pratiquons l'acupuncture. Moi-même, je pratique aussi la pharmacopée chinoise, donc de le même univers que l'acupuncture. Et puis, le docteur Jean Boucher pratique l'homéopathie et la micronutrition, donc ainsi que la mésothérapie. Donc ça, malheureusement, vous n'entendrez pas plus parler ce soir, parce que c'est des domaines que je ne maîtrise pas. Et ce sera juste les documents que Jean Boucher, je crois, vous avez entre les mains. Alors, moi, je vais donc vous parler de la médecine chinoise. Alors, le scope se rétrécit petit à petit, mais quand on rentre dans cet univers, il faut accepter de complètement changer son système de pensée. Il faut accepter de perdre tout ce qu'on a appris avant et de rentrer dans cette nouvelle pensée chinoise, à la fois avec un fond philosophique, mais surtout une nouvelle physiologie, une nouvelle intelligence de la maladie et ou du fonctionnement normal du corps humain. Alors, quand on parle particulièrement d'acupuncture, ce qui est certainement ce qui est le plus largement développé en Occident et particulièrement en France pour ce qui concerne la médecine chinoise, alors la médecine chinoise englobe l'acupuncture, la pharmacopée, dont je vous parlerai brièvement après, les massages, la diététique, très importante en médecine chinoise, et puis certains rajoutent le qigong, bon, c'est tout un débat. Alors, pour parler maintenant d'acupuncture, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'acupuncture ? On va, d'une façon très générale, aller chercher chez le patient ses capacités d'auto-guérison. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la médecine chinoise. On a souvent l'idée d'aller aider le patient à lui-même aller vers la guérison, que ce soit pour la douleur ou pour toutes sortes de pathologies. On va, à l'aide des aiguilles, et je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne, entre guillemets, même si on n'a pas encore tout compris. Mais l'objectif, c'est d'obtenir une rééquilibration physiologique du patient. Et l'idée, c'est qu'en allant mettre les aiguilles au bon endroit, on va rééquilibrer, là où c'est nécessaire, l'équilibre physiologique du patient. Donc l'idée sous-jacente, c'est que non seulement on essaie de calmer le symptôme, mais on essaie aussi de guérir le patient. Ce n'est pas toujours possible, mais parfois on peut guérir avec simplement l'acupuncture. Et donc, comme le dernier item, c'est de dire qu'effectivement, on peut aller à la racine du mal et traiter la cause. Il y a aussi beaucoup cette idée dans la médecine chinoise qu'il y a le symptôme et il y a la racine du mal. Et donc, en permanence, on essaie d'aller comprendre qu'est-ce qui est à la racine, ce que nous, on appellerait peut-être plutôt le terrain qui a fait que cette personne a développé à tel ou tel moment une pathologie. J'aime bien donner cette citation de Claude Bernard qui disait déjà, pourtant lui est un médecin occidental, tout ce qu'il y a de plus occidental, disait « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est 10 à être en contact avec un patient grippé, il y en a 2 sur 10 qui attraperont la grippe. Pourquoi ? Parce que leur terrain à ce moment-là fait qu'ils ont été susceptibles à ce microbe et les autres résisteront parce que leur terrain à eux était à ce moment-là résistant. Alors, juste pour vous fixer un petit peu les idées, si certains d'entre vous n'ont jamais eu de séance d'acupuncture, voilà en gros à quoi ressemblent les aiguilles qu'on utilise. Donc, ce n'est pas du tout l'aiguille qui est en haut, hein, qui là est une aiguille qu'on utilise pour les injections sous-cutanées, donc les aiguilles déjà très très fines quand on fait une injection. Vous voyez que les aiguilles d'acupuncture sont beaucoup beaucoup plus fines. Voilà, et généralement, la ponction est sinon indolore, très très peu douloureuse. Ça, c'est pour vous rassurer sur ce que font les acupuncteurs. Ce qui n'était pas toujours le cas. Historiquement, c'était parfois beaucoup plus douloureux. Alors, quand on fait de l'acupuncture, comme je vous ai dit, on essaie de rééquilibrer la physiologie du patient. Et pour ça, les Chinois avaient décrit depuis très très longtemps des méridiens, où maintenant, certaines personnes préfèrent parler de canaux. Toujours est-il qu'eux décrivaient ça comme des grandes rivières avec une vallée qui était assez plus profonde au milieu et puis qui allait un petit peu vers les berges. Et donc, ces rivières voyagent comme ça à travers le corps. Les méridiens vont du haut en bas du corps ou du bas en haut, selon. Ils vont, en tous les cas, d'une extrémité à l'autre. Et donc, les Chinois disaient que c'est dans ces canaux que circule l'énergie du corps. Ces méridiens, ils ont de multiples fonctions. D'abord, il faut savoir qu'ils recouvrent toute la surface du corps. On a toujours l'image de petits traits qui se promènent sur la surface du corps. Mais en fait, à nouveau, c'est vraiment l'image de rivière ou de fleuve. Et du coup, toute notre surface corporelle est recouverte de ces méridiens. On pense maintenant qu'ils se situent à peu près au niveau sous-cutané, entre la peau et puis les fascias musculaires. Et les fonctions de ces méridiens, d'après la physiologie chinoise, étaient de dire, d'une part, ils servent un peu de capteurs, de récepteurs du milieu extérieur, que ce soit des facteurs climatiques, que ce soit toutes les ondes auxquelles on est soumise, hein, l'électromagnétisme terrestre, les ondes solaires, etc., etc. Donc, ça sert un petit peu de capteur comme ça du milieu extérieur. Et puis, ces mêmes méridiens sont en connexion avec notre milieu intérieur et avec nos organes et nos entrailles, disent les Chinois, enfin, tous nos organes de l'intérieur. Et en plus de ça, ils nous servent au diagnostic, c'est-à-dire très particulièrement pour la douleur. Quand on interroge un patient sur sa douleur, on va bien sûr, entre autres, lui demander où est cette douleur. Et quand on a un œil d'acupuncteur, on va voir le trajet, enfin, quels sont les méridiens concernés par cette douleur. Et c'est ce diagnostic de méridien qui va après orienter notre acupuncture. Et donc, ces mêmes méridiens, vous l'avez compris, sont non seulement diagnostiques, c'est aussi très important de palper les méridiens, de les observer. Parfois, on peut voir des dysfonctionnements sur la circulation au sein de ce méridien. Mais toujours est-il qu'une fois qu'on a fait son diagnostic, ce même méridien après va être thérapeutique, puisque c'est lui qui va être utilisé souvent pour aller soigner un autre méridien malade. On peut aussi utiliser le méridien atteint. Bon, ça, c'est encore tout un autre débat d'acupuncteur. Mais voilà, en gros, le système méridien d'une façon très, très générale. Alors, au sein de ces méridiens, c'est le petit bonhomme que vous voyez en haut à gauche, qui est tiré d'un vieux traité de médecine chinoise. Sur ce méridien, vous voyez qu'il y a des petits points. Et ces petits points sont des endroits sur le méridien, sur son trajet, qui sont réputés être particulièrement réactifs quand on va les ponctionner. Alors ça, c'est une diapo que j'aime bien montrer, parce que très souvent, la question, mais les méridiens, est-ce que ça existe? C'est vrai qu'on ne voit pas de tuyaux, on ne voit pas de câbles, on ne voit rien de tout ça quand on fait une dissection d'un mammifère, par exemple. Mais maintenant qu'on a des techniques plus énergétiques, et en particulier la physique contemporaine nous donne maintenant des moyens diagnostiques différents et d'observation du corps humain différentes. Là, c'est en fait quelque chose d'assez simple. C'est simplement un appareil qui permet de détecter les différences de température cutanée. Quand j'en discutais avec Elodie, elle m'a dit que c'est les mêmes systèmes pour voir les isolations des maisons, et très probablement. Bref, ça voit les rayonnements infrarouges. Et donc là, c'est une expérience très très simple. C'est une équipe allemande, à nouveau, qui a fait ça. Ils ont ponctionné avec une aiguille d'acupuncture sur un méridien, qui est le méridien de la vessie, que vous voyez représenté à droite, là, qui est ce méridien qui fait tout le trajet postérieur de notre corps. Et ce méridien, donc, ils le ponctionnent, et puis ils font ce qu'ils appellent du MOXA. Ça, c'est une autre technique qu'on peut utiliser en acupuncture, et particulièrement pour la douleur, qui consiste en chauffer l'aiguille ou le point directement, comme on veut, avec une plante particulière qu'on fait brûler. Et donc, ils ont ponctionné, chauffé, et qu'est-ce qu'ils voient? C'est que non seulement ça chauffe au lieu de ponction, mais que ça va allumer tout le trajet du méridien. Donc, ça montre bien qu'il y a effectivement une circulation ici d'énergie chaleur le long du méridien et qu'on peut détecter par ces appareillages sophistiqués contemporains que les Chinois n'avaient pas, mais on retrouve le même trajet que ce qu'ils avaient déjà dessiné il y a quelques milliers d'années. Alors, maintenant, je vais vous dire quelques mots. Alors ça, c'est emprunté à Jean Boucher. Donc voilà, il y a les deux diapositives suivantes sont empruntées à son topo, donc qu'il aurait dû vous faire ce soir. Donc Jean Boucher, lui, est attaché à l'expression d'acupuncture scientifique, parce que donc vous avez compris qu'il y a toute une recherche contemporaine sur l'acupuncture qui a lieu essentiellement aux États-Unis, au Japon, en Chine, bien sûr, puis aussi un peu en Europe, même si on n'est pas très en avance dans ce domaine. Et là, Jean Boucher, je crois que vous l'avez sur votre topo, insiste bien sur le fait que là, ce sont des équipes américaines et japonaises qui recherchent beaucoup là-dessus. Et là, c'est donc une façon contemporaine d'étudier un petit peu différente, qui est plus biochimique et qui va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe quand on ponctionne un point. Qu'est-ce que ça va changer dans l'organisme en termes biochimiques, donc en termes de neurotransmetteurs, de molécules antalgiques, etc. Et donc on sait maintenant parfaitement que quand on ponctionne certains points, on va provoquer éventuellement la production d'endorphines, qui sont des opioïdes naturels, ou d'autres molécules qui pourront avoir un effet indirect sur la douleur, soit parce qu'elles ont une activité anti-inflammatoire, soit une autre activité qui indirectement pourront aller soigner le patient et avoir un effet sur sa douleur ou autre, si on ne parle pas bien sûr de soigner la douleur. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ce que vous avez précédemment, ce qu'on trouve aujourd'hui, ça recoupe ce que les Chinois avaient déjà décrit il y a quelques milliers d'années à nouveau, et les points qui étaient réputés antalgiques, on s'aperçoit que ce sont des points qui effectivement sont des lieux potentiels de sécrétion, enfin pas des lieux de sécrétion, mais qui, lorsqu'on les ponctionne, vont provoquer la sécrétion de molécules antalgiques, endogènes. Donc à nouveau, toujours cette idée aussi d'aller chercher chez le patient ce qui l'emmène vers la guérison, ou au moins le soulagement. Voilà, ben en fait, j'ai un petit peu anticipé sur la diapo suivante, donc voilà, c'est ce que Jean voulait transmettre, c'est de dire que ce que je viens de vous dire, qu'on peut superposer maintenant à la fois la tradition ancienne et puis les découvertes contemporaines qui sortent tous les jours. Il y a une bibliographie très active et de plus en plus, on a des informations. Et c'est aussi, bien sûr, très précieux pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'autant les Chinois sont des pragmatiques, qui s'en fichent de savoir comment ça fonctionne, tant que ça marche et que leur système est à son intelligence propre et sa logique propre et qui fonctionne, c'est parfait. Ils n'ont pas besoin forcément d'aller comprendre à l'origine comment ça fonctionne. Mais nous, on est des analytiques et on aime bien comprendre pourquoi ça marche. Alors, comme je vous avais dit, je vais vous dire maintenant quelques mots rapides de la pharmacopée chinoise. Alors ça, c'est tout un domaine extrêmement vaste. Il y a des centaines et des centaines de plantes qui font partie de cette pharmacopée. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le prix Nobel vient d'être décerné à une plante, si je peux dire, enfin une chercheuse qui a réussi à extraire d'une plante chinoise qui est utilisée depuis très longtemps pour le paludisme. Les Chinois l'utilisaient depuis très longtemps pour soigner les crises de paludisme. Et donc cette femme a ressorti ça, si je peux dire, de la pharmacopée chinoise, et en a extrait une molécule, et elle vient d'obtenir le prix Nobel 50 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, je ne sais plus, pour cette découverte. Donc il y a un très très vaste panel de plantes qui, comme toujours en médecine chinoise, vont avoir le double objectif d'aller soigner le symptôme et aussi le terrain à la racine. Alors ces plantes, c'est ce que dit toujours un de mes professeurs, ça fait des milliers d'années qu'elles sont utilisées, donc tous les effets secondaires, on les connaît depuis longtemps, on sait comment les prévenir, et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes sont la plupart du temps préparées auparavant en laboratoire. C'est très rare d'avoir la plante elle-même directement, très souvent il y a une préparation pour en enlever la toxicité. Il y a quelques plantes qui sont réputées toxiques, qu'on peut parfaitement utiliser parce qu'elles ont eu cette préparation. J'insiste sur le fait qu'il y a très très peu d'effets secondaires, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu, et à condition qu'on respecte les règles de prescription. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelques gros problèmes qu'il y a eu avec les plantes chinoises. Moi, j'étais interne à l'époque en néphrologie, et l'histoire à laquelle je pense avait donné des maladies rénales à des patients. Pourquoi ça ? Parce que ça avait été prescrit mal, beaucoup trop longtemps et dans des indications qui n'étaient pas bonnes. Avec le raisonnement, c'est des plantes, ça ne peut pas faire de mal. Sauf que dans notre propre pharmacopée occidentale, beaucoup de médicaments viennent de plantes, donc on sait parfaitement qu'il y a des substances qui peuvent être extrêmement actives. Simplement, il faut savoir les manipuler, et ça, ça s'apprend. Et puis, voilà. Donc, à partir du moment où on le sait, là, les effets secondaires sont généralement très modestes. En France, le principal problème qu'on rencontre, c'est le coût. Il n'y a pas de prise en charge, contrairement à d'autres pays, hein, comme la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre aussi est en train de s'y mettre, où il y a des prises en charge. Nous, on n'en a pas, donc ça peut parfois être un facteur limitant, même si ce n'est pas très cher, ça peut être un facteur limitant pour prescrire ce type de traitement. Alors, les illustrations, vous voyez en bas à droite, moi je trouve ça très joli, c'est les façons traditionnelles de prescrire les plantes. Maintenant, ça se fait de moins en moins comme ça. Et on peut maintenant acheter des petites boîtes avec dedans des gélules et avec à l'intérieur les formules. Ceci dit, là aussi, c'est tout un vaste débat, mais voilà, certains disent qu'on n'a pas la même efficacité avec quand on procède de cette façon-là. Bon, à nouveau, c'est un autre débat. Et puis, ben, juste pour vous illustrer, voilà en haut à gauche un laboratoire chinois donc, qui fabrique, qui extrait ces plantes et qui les prépare. Vous voyez ces alignements de bocaux voilà, avec dedans les produits thérapeutiques. Alors, encore quelques mots de cette médecine, enfin de cette pharmacopée. L'intitulé du topo était contemporain parce qu'on voulait mettre en exergue le fait qu'il y a aussi du contemporain dans ces médecines traditionnelles. Et ça, en fait, c'est un article assez récent. Vous voyez, il est de l'année dernière. Et c'est la découverte dans une plante qui, là aussi, est utilisée depuis très, très longtemps pour la douleur, qui s'appelle Yanusuo, qui est le corydal. Et dans cette plante a été découverte une nouvelle molécule d'une nouvelle classe de traitement antalgique. Il faut savoir, dans cette pharmacopée, il y a énormément de laboratoires qui s'y intéressent de près et il y a certainement un réservoir fabuleux de substances qu'on va découvrir comme ça petit à petit. Donc peut-être ça donne espoir de traitements futurs pour la douleur. Alors je voulais finir sur cette diapositive très générale. Pour dire que peut soigner cette médecine, la médecine chinoise. Je ne reviens pas tellement sur les médecines alternatives complémentaires parce que chacune est vraiment un cas particulier. Donc je suis désolée, hein, je reste un petit peu sur ce spectre un peu plus restreint de la médecine chinoise. C'est une médecine à part entière qui est utilisée par des milliards de personnes pour se soigner au quotidien. Donc en gros, ça soigne à peu près tout. Il n'y a pas de chirurgie, c'est probablement la grosse différence de notre médecine à nous, mais sinon, ça soigne vraiment un très large spectre. Et ce que nous, occidentaux, on en tire, à mon avis, d'utile par rapport à ce qu'on a déjà à disposition, c'est dans le traitement de la douleur. Donc vous avez compris que c'est surtout de la douleur chronique, hein, là je précise pas, mais dans la douleur chronique particulièrement, c'est souvent une prise en charge qui est compliquée, avec des traitements qui parfois peuvent devenir lourds, avec parfois des effets secondaires. Là, l'acupuncture peut vraiment être d'un intérêt majeur pour essayer de diminuer les traitements, voire parfois, dans certaines situations, de les arrêter. Bon, c'est aussi parfaitement efficace pour la douleur aiguë. Hein. Parfois, en une ou deux séances, on peut régler un problème de douleur aiguë sans avoir recours à des antalgiques. Ça, j'allais dire, c'est après un choix personnel éventuellement. Ça traite des infections chroniques, des sinusites chroniques, cystites chroniques, etc. Ça soigne les allergies, les affections cutanées. Bon, là, on s'éloigne un peu de la douleur. Et puis, je reviens sur les troubles du sommeil et les troubles anxio-dépressifs, parce que ça accompagne beaucoup les problèmes de douleur chronique. Comme vous avez compris, un des précédents orateurs, oratrices. Et là, l'acupuncture a aussi un intérêt pour les troubles du sommeil, en remplacement ou en substitution des somnifères, et puis les troubles anxio-dépressifs qui peuvent accompagner éventuellement secondairement une douleur chronique. Voilà, on va s'arrêter là.
Voilà, merci. Merci à vous trois. Ça va ? Bon, alors si vous avez des questions, vous levez la main, comme à l'école. Je viens vers vous. Si vous avez des questions écrites, vous pouvez me les donner discrètement. Je vais passer aussi. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, il y a pas mal de questions déjà qui me sont arrivées, même assis déjà. D'abord, est-ce que on me demande si, en fait, avec le monde moderne, on a l'impression d'avoir toujours mal, en fait, que la douleur est vraiment très régulière, on a souvent mal pour plein de choses, c'est peut-être lié à la pollution, à la vie, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de facteurs pour avoir une douleur maintenant qu'il y en avait il y a 50 ans ? C'est une bonne question pour démarrer.
Alors, je vais brièvement vous donner le point de vue du praticien de médecine chinoise que je suis devenue depuis quelques années. On dit qu'en Chine, par exemple, la douleur est perçue totalement différemment. Je pense qu'il y a un facteur culturel très fort dans la perception de la douleur. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de causes maintenant d'avoir mal qu'avant ? Ça, j'en sais rien du tout. Mais il est certain qu'il y a un facteur culturel dans la perception de la douleur. Voilà.
D'accord. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure de plantes que l'on découvre un peu nouvelles dans cette médecine alternative. Est-ce que justement, toutes ces médecines sont très anciennes ? Il y a vraiment une évolution, il y a encore plein de choses, il y a encore tout un tas de plantes et d'autres techniques que l'on va découvrir et qui existent pourtant et qui sont quelque part dans le monde.
Alors ça, j'en suis convaincue. On commence un peu à s'ouvrir à ça en France, un petit peu plus. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui sont déjà beaucoup bien en avance sur nous, hein, en particulier les États-Unis, l'Angleterre, enfin tout l'univers anglo-saxon, on va dire. Et puis en Europe, l'Allemagne et aussi la Suisse. Bon voilà, on peut citer pas mal de pays qui ont beaucoup plus que nous recours à ce type de médecine. Oui, moi je pense sincèrement je pense que c'est toute la richesse aussi d'avoir notre œil occidental analytique, d'être capable effectivement en la fois de comprendre comment ça marche et puis peut-être en comprenant un petit peu plus d'enrichir et d'augmenter les capacités de toutes ces techniques. Un exemple tout simple, c'est que l'acupuncture, bon, ça se pratiquait initialement avec des aiguilles en fer, enfin encore avant peut-être des aiguilles en os, bon peu importe. Maintenant on utilise des aiguilles en acier qui sont hyper fines avec un manche en cuivre pour la conductivité, mais bon, des aiguilles qui généralement font pas mal du tout ou très peu. Et puis maintenant, on utilise aussi parfois des stimulations électriques et on pense que ça peut augmenter encore l'efficacité. Donc tout ça, effectivement, ça bouge, il y a beaucoup de recherches et ça va sûrement ne faire que croître et embellir.
C'est millénaire, mais on n'est qu'au début en fait, presque.
Voilà,
non, pas au début, on est au lendemain. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors j'arrive. Je vais vous tenir le micro. Je vais tenir.
Bonjour, juste deux petites choses. D'abord, c'est juste pour m'adresser la première fois aux jeunes étudiants, aux futurs étudiants, avant de poser ma question. J'espère que vous avez écouté ce qu'a dit le docteur Charrier tout à l'heure, concernant la prise en compte de la douleur, et aussi la douleur dans la vie du patient. Parce qu'on ne positionne pas la douleur, c'est aussi important que la douleur, pour avoir vécu ça. Autrement, les gens s'enferment dans une bulle et c'est encore plus compliqué à soigner. C'était l'aparté. Moi, j'ai une petite question que vous avez fait vous avez abordé dans les documents au niveau de la morphine, qui était un des principaux antidouleurs. Est-ce qu'on a un recul sur l'utilisation de la morphine à long terme sur quelqu'un, sur un individu ? Parce qu'on connaît tous les effets secondaires, on a tous peur de ces effets secondaires, on les craint. Est-ce qu'on a un recul assez long sur cette utilisation ?
On sait que, alors j'ai pas d'études vraiment poussées, mais en tous les cas, on sait que la morphine au long cours, il y a des troubles endocriniens qui apparaissent après. Alors le nombre d'années, c'est un peu difficile à dire, mais à partir de 20-30 ans, a priori, l'utilisation de la morphine, en tous les cas, n'est pas dénuée de risques. Et de désordres, en tous les cas endocriniens, ça c'est sûr. Et puis il y a tous les phénomènes d'hyperalgésie induite par les morphiniques, j'en ai pas parlé. Mais en fait, faut savoir que la morphine en douleur aiguë, ça marche très bien. On l'utilise pas longtemps, donc il y a une vraie action antalgique. Sauf qu'au long cours, la morphine, et notamment à forte dose, fait l'inverse. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer la douleur, elle aggrave la douleur avec ce qu'on appelle une hyperalgésie. C'est-à-dire que tous les récepteurs de la douleur sont encore plus stimulés, plus sensibles. Et donc, au final, la morphine aggrave les douleurs. D'où l'intérêt en douleur chronique, justement. On peut, bien évidemment, même... Les recommandations, de toute façon, dans la douleur chronique, c'est pas de morphinique au long cours, le plus possible. Après, on adapte un traitement à la carte. Et donc, la morphine, si elle doit être utilisée, il faut toujours remettre en cause son efficacité. Donc, par diminuer les doses, voir si ça soulage toujours, et faire très attention. L'escalade thérapeutique morphinique dans la douleur chronique est un piège. Et vraiment... d'où l'intérêt d'aller dans des centres spécialisés, c'est-à-dire que on le voit par exemple par Et je ne mets pas en cause du tout la médecine générale, mais sauf que c'est un temps et une spécialité à part, la douleur. Et c'est-à-dire que les gens ont mal, on augmente les antalgiques, ça marche pendant 15 jours, puis le patient retourne voir son médecin, il a de nouveau mal, il augmente les antalgiques, on est comme ça dans une escalade thérapeutique médicamenteuse qui est délétère pour le patient au long cours. Donc on sait qu'il y a des troubles, notamment métaboliques et endocriniens, qui apparaissent après. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas en avoir peur non plus. C'est dose dépendant. On ne sait pas vraiment, mais d'où l'intérêt de cette épargne thérapeutique. On ne met que si on n'a pas le choix et à dose raisonnée.
Merci.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir où vous en étiez, enfin, où le centre sur le Zona, en fait, par rapport à une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont bien...
Donc sur les neuropathies post-ostériennes, c'est ça en fait, sur les douleurs séquelaires après le Zona, parce qu'en fait le Zona, il y a l'éruption avec les boutons, et puis après peuvent persister ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, les agies post-ostériennes, en regard du dermatome. Hein, en fait le Zona, c'est à une zone précise du corps, on parle de dermatome, et on peut garder des douleurs neuropathiques. Et en fait, la prise en charge des agies post-ostériennes, c'est toute la difficulté de la prise en charge des douleurs neuropathiques d'une manière générale. On avance, on sait que d'une manière générale, l'évolution naturelle des agies post-ostériennes est en amélioration jusqu'à un an après l'éruption. Au bout d'un an, on pense quand même que ces douleurs sont stables. Et on a ce qui est médicamenteux, non médicamenteux, notamment avec les électrodes dont je vous ai parlé. On a le Versatis, un patch anesthésiant, qui est apparu il y a quelques années, qui peut aider aussi. Et puis, au terme, ça fait partie des indications. On peut aller jusqu'à la stimulation médulaire. Enfin, en tous les cas, si elle n'est pas médulaire, c'est des électrodes posées sous la peau. En partenariat avec l'équipe neurochirurgicale. Donc on a des nouvelles techniques qui apparaissent, qui peuvent aller jusqu'à l'invasivité. C'est un gros problème de santé publique, hein, les agies post-ostériennes, et d'où l'arrivée sur le marché. Alors je ne regarde plus trop la médecine générale, mais il y a un vaccin qui, s'il n'est pas commercialisé, va pas tarder, qui va rentrer normalement dans le nouveau calendrier vaccinal. Du coup, parce que c'est un vrai problème de santé publique, ces agies post-ostériennes. Et quand à 12 mois, elles sont encore présentes, elles sont très, très, très difficiles à améliorer. Mais on avance.
Alors, sur le Zona, j'aimerais également dire que la médecine chinoise a son indication, puisque, en fait, un Zona ne survient pas chez n'importe qui à n'importe quel moment. Il y a vraiment un problème de terrain. Puisque le virus du Zona, une fois qu'on a fait la varicelle, reste dans les ganglions paraspinaux et dort là et attend qu'une chose, c'est qu'à un moment donné où vous allez être fatigué ou fragilisé, il va à nouveau surgir et parcourir le nerf et faire une irruption. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en médecine chinoise, que j'ai moi-même découvert cette année, on va traiter par l'acupuncture à toutes les phases du Zona et avant la douleur ou après la douleur. Je pense que Mme Costa-Fournel sera d'accord. Et on a des résultats assez spectaculaires avec des aiguilles parce que on va essayer de renforcer l'énergie vitale et de jouer sur ce terrain qui est fragilisé. Et franchement, en deux ou trois séances, on a des résultats remarquables.
D'accord. D'accord, j'arrive.
Un témoignage et une question. Une cruralgie particulièrement douloureuse qui a duré une semaine a été calmée, enfin, avec l'électrostimulation transcutanée au plus bas de la puissance. J'insiste là-dessus, parce qu'on croit toujours que c'est en mettant l'appareil le plus fort que ça marche, mais c'est vraiment au plus bas. Et ma question est, est-ce qu'une douleur qui a pu durer comme ça très très forte pendant une semaine peut influer sur le système neurovégétatif, provoquer des dystonies au niveau du sympathique et du parasympathique à suivre de la douleur?
Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de sympathique ou parasympathique. En tous les cas, la douleur crurale sur une semaine, on reste sur une douleur aiguë, telle qu'on peut en avoir, alors qui peut être récidivante. Et si elle récidive trop longtemps avec un fond douloureux qui persiste, on arrivera bien évidemment sur une douleur chronique. C'est une douleur aiguë qui est assez simple, hein, la douleur crurale, qui fait très mal parce qu'on est sur une composante neuropathique, mais on est sur la douleur aiguë, donc ça se traite avec des traitements antalgiques classiques. L'électrostimulation, ça marche. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais en fait, c'est en recrutant des fibres du toucher. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, il suffit juste de stimuler les fibres du toucher. Donc, il faut sentir que ça fourmille à l'endroit de la douleur pour avoir un effet antalgique. Après, l'histoire des sympathiques et parasympathiques dans la douleur crurale, dans une douleur aiguë, je ne pense pas.
Je voulais parler de la suite de la douleur. Est-ce que la douleur supportée difficilement pendant une semaine peut provoquer des dystonies?
Alors, c'est la douleur neuro. Alors, qu'est-ce que vous avez... dystonie, c'est des mouvements anormaux de la jambe. Qu'est-ce que vous appelez?
Ah non, des dystonies neurovégétatives, à savoir une augmentation de l'adrénaline. Provoquant une augmentation, par exemple, du rythme cardiaque ou des problèmes digestifs.
Alors, toute douleur aiguë fait qu'il y a une augmentation tensionnelle avec des troubles et une augmentation de la fréquence cardiaque, au même titre qu'une situation de stress. Hein, une douleur aiguë, il y a une situation de stress qui se met et forcément, on peut avoir des variations tensionnelles et par les variations tensionnelles, une variation de la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et ce qui est associé en fait.
Par contre, si je puis me permettre, peut-être... il peut y avoir une conséquence dans la mesure où votre douleur aiguë, si elle a été mal vécue, si elle a été intense, et elle va s'inscrire dans votre mémoire. En fait, votre cerveau va garder la mémoire de cette douleur. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne peux pas vous dire. Mais à l'occasion d'une autre douleur ou de la même douleur qui se reproduit, probablement que ce cerveau va par cette mémoire réagir différemment ou amplifier ou pas, mais il y a ces circuits-là qui ont été bien identifiés, hein, qui sont les circuits limbiques, et en fait ces circuits ont une part dans l'apparition de douleurs chroniques ou l'apparition d'autres douleurs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous rajouter.
Ok. D'autres questions? Oui, j'arrive après madame.
Oui, bonsoir. Vous avez évoqué le terme là, d'algo-neurodystrophie. Alors ça, on entend beaucoup parler de ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas s'il y a une réponse à cette maladie. Je pense qu'on peut qualifier de maladie ou de réaction au niveau du cerveau. C'est ça, cette algo-neurodystrophie, c'est quoi? Est-ce que ça se soigne?
Alors, maintenant, on ne parle plus d'algo-neurodystrophie. Enfin, on parle, le nouveau mot, c'est syndrome douloureux régional complexe, qui, à mon sens, est plus parlant, d'accord. Ce sont des douleurs qui apparaissent de manière disproportionnée, je dirais, par rapport à l'événement initiateur. C'est-à-dire que on peut faire alors je vais parler de SDERC, hein, syndrome douloureux, c'est plus rapide. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une entorse ou qui se cogne juste la cheville peut avoir des douleurs intolérables, persistantes, qui vont durer. Et en fait, dans le SDERC, on a une douleur disproportionnée. On peut avoir ça après des chirurgies, une prothèse de genou, etc. C'est-à-dire que souvent, il y a un intervalle libre entre la chirurgie ou le traumatisme et l'apparition de douleurs disproportionnées par rapport à ce qu'on attendrait de l'intervention en elle-même. Du coup, il y a toujours cet intervalle libre. C'est-à-dire que c'est des gens, par exemple, si je prends l'exemple d'une prothèse de genou, tout se passe bien, ils vont en rééducation, ils font la kiné, ça évolue bien, et pof, d'un coup, des douleurs intolérables qui apparaissent, et souvent est associé à cette douleur des troubles, alors parfois des troubles moteurs, mais des troubles vasomoteurs, où on va avoir une asymétrie franche entre les deux membres, et c'est ça qui compte. des troubles de la coloration, une hypersudation, la peau qui va changer de couleur. Et là où je vous rejoins, c'est que les dernières études montrent qu'il y a des troubles visio-spatiales. En tous les cas, au niveau cérébral, il se passe des petites choses. Souvent, il y a une surreprésentation cérébrale du membre atteint. Et donc, est-ce qu'on guérit ? Oui, c'est-à-dire que dans 80% des cas, les SDERC sont résolutifs spontanément, mais c'est-à-dire que cela, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que ça va être la personne qui va faire de la kiné, ça va faire mal, ça va durer quelques séances, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Donc on dit toujours que l'évolution naturelle d'un SDERC est bonne, oui, sauf que... Les gens chez qui les douleurs persistent et ceux qu'on suit au centre antidouleur, il reste pour 20% des cas, on a à peu près des séquelles très importantes dans 3 à 4%. C'est-à-dire des amyotrophies, on peut quasiment plus servir du membre malade, d'accord ? Et il reste après les 15 autres pourcents où finalement, dans le meilleur des cas, on arrive à réintégrer les gens dans le cadre socio-professionnel. Souvent, il y a des adaptations de poste nécessaires. Il y a des restrictions par le médecin du travail. Et souvent, il y a une fatigabilité du membre qui persiste, en fait. C'est-à-dire qu'à minima, on peut avoir des douleurs qui sont souvent des douleurs à l'effort, mais des fois qui arrivent spontanément, même au repos. Mais quand on arrive à améliorer les gens, ce qui reste au bout de 2, 3, 4 ans, souvent c'est cette fatigabilité du membre qui oblige souvent à un reclassement professionnel ou à une adaptation du poste de travail. C'est ça en fait, l'algo ou le SDERC. Et souvent on fait maintenant ce qu'on appelle du mirroring, la thérapie du miroir, pour essayer de réentraîner le cerveau à ce que j'appellerais, par exemple, quelqu'un qui a un SDERC de la main droite. Quand il parle, souvent par réflexe on avance la main droite, et finalement le membre douloureux va être en retrait et on va perdre cette spontanéité du membre malade. Et donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral, et on essaye aussi de rééduquer le cerveau, de réapprendre cette spontanéité. Mais voilà, c'est complexe, ça met du temps, et souvent, ce sont des arrêts au moins, au minimum d'un an, une fois que le diagnostic est porté.
D'accord. Question suivante.
Bonsoir. D'abord, merci pour votre conférence qui est très intéressante. Moi, je vais justement rebondir sur la rééducation. Alors, moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc, on travaille en parallèle avec les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes. Et donc, nous, on se trouve aussi face à des patients donc, qui ont, par exemple, des pathologies chroniques qui engendrent des douleurs chroniques. Est-ce que vous auriez des conseils, justement, sur la gestion de la douleur lors de l'effort ? Moi, dans mon activité, lorsqu'une douleur reste à peu près à la même intensité qu'avant l'effort, en général, ça ne m'alarme pas trop. Je fais perdurer l'exercice. Mais à quel moment on peut dire, bon, là, on arrive à un seuil où il ne faut pas dépasser pour éviter justement de déclencher une douleur qui va vraiment être importante et nécessiter une autre intervention ? Voilà. C'était pour avoir un conseil. Merci.
Alors, je pense que c'est déjà une question de... Il faut écouter le patient s'il dit... Tout patient ou toute personne connaît elle-même ses limites. Donc, il faut lui faire confiance. Quand la personne dit « Non, là, c'est pas possible, ça me fait trop mal », il faut l'écouter et finalement adapter le geste. Et quand on fait comme ça, l'anticipation, c'est l'élément primordial. Et quand la rééducation ou la prise en charge est vraiment nécessaire à l'amélioration de la pathologie et au bien-être de la personne, eh ben, très souvent, ce qui peut aider, c'est d'anticiper et donc de prendre des antalgiques. La plupart des antalgiques pris par voie orale sont à leur pic d'efficacité à une heure. Donc, c'est bien évidemment en prescription anticipée, ça nous arrive de donner des antalgiques d'action rapide. On dit aux gens, vous les prenez une heure avant de débuter la kiné, par exemple. ou d'autres choses. Quand les gens veulent marcher, etc., ils prennent une heure avant leur antalgique qui va agir pendant 4 heures et ça peut comme ça permettre d'avoir une rééducation adaptée. Mais c'est aussi une question de bon sens et les patients savent leurs limites et il faut savoir les écouter et adapter. J'espère que ça peut vous aider.
Pardon. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir si l'acupuncture permet d'atténuer les douleurs dues à l'arthrose.
Alors, la réponse est oui. Après, dans ma pratique personnelle, la réponse ne concerne que moi. Et quand c'est une douleur mono ou post-articulaire, enfin qui concerne peu d'articulation, parfois je ne fais que de l'acupuncture. Par contre, quand c'est une atteinte de type polyarthrite, inflammatoire ou pas, à ce moment-là, j'utilise beaucoup, beaucoup la pharmacopée. Et là, il y a parfois des résultats remarquables qu'on n'obtient pas avec la médecine occidentale. Voilà ce que je peux dire.
Ok, merci pour votre réponse. Une question ? Oui, j'arrive, madame.
Est-ce que l'acupuncture peut soulager le syndrome des jambes sans repos ?
Alors, je ferai une réponse un petit peu similaire. Oui, ça soulage généralement bien. Et là aussi, dans ma pratique personnelle, peut-être que Jean Boucher vous répondrait que lui rajoute de l'homéopathie. Moi, en tous les cas, dans ma pratique, quand je vois qu'après 2, 3, 4 séances, ce n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, je rajoute éventuellement un traitement de pharmacopée en plus.
J'arrive après. Alors,
c'est les plantes.
Je cours. Allez, je suis là.
Moi, je ne sais pas comment commencer ma question parce que ça fait 20 ans que je souffre de douleurs intensives. J'ai fait des colonoscopies. On m'a dit que c'est le ballonnement d'estomac. Mais je ne sais pas, j'ai fait l'acupuncture. Ça ne sert à rien. Maintenant, je voudrais savoir d'abord, vous me donnez un rendez-vous pour venir vous voir.
Vous avez pris votre agenda, j'espère. Alors, ça rejoint. Il y a une question aussi, justement, qu'on vient de me donner, qui dit est-ce que considérez-vous qu'une maladie chronique qui a été résistante à toutes les méthodes est une fatalité ? Waouh, ça, c'est de la question.
Alors. La maladie chronique, d'une manière générale, c'est une fatalité. C'est-à-dire que si elle est chronique, c'est qu'elle va rester. C'est-à-dire que sinon, le mot chronique, c'est que ça reste. Après, tout le but de ma spécialité, c'est d'essayer de réussir à l'intégrer le mieux possible dans la vie de la personne pour adapter, essayer de trouver des solutions ensemble. Pour mieux vivre avec, mais c'était aussi dans l'article du 7 à Poitiers, c'est pas vivre sans, hein, c'est mieux vivre avec, adapter, limiter la frustration, apprendre à mieux gérer, trouver des solutions correctes, mais en tous les cas, oui, c'est un peu une fatalité la douleur chronique, ouais. C'est-à-dire que va falloir, il faut accepter, une fois parce que l'acceptation, c'est très important, hein, l'acceptation de la douleur chronique. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction des gens, ça dure plus ou moins longtemps. Hein. Une fois que la phase d'acceptation, tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison que les gens n'arrivent pas à accepter. On a besoin de cet état d'acceptation pour adapter après une prise en charge adaptée. Tant que les gens n'acceptent pas la pathologie, ils ont toujours l'espoir d'une disparition complète et d'une restitution ad intégrum de leur état clinique d'avant, et on n'avance pas. Donc il y a tout un travail à faire, mais voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter.
Oui, à ce titre, on n'a pas parlé d'hypnothérapie, qui est pourtant proposée au centre antidouleur. Et ça, c'est une méthode, une technique qui est vraiment intéressante pour apprendre à gérer sa douleur. Et les patients apprennent l'auto-hypnose. Et c'est un petit outil qu'ils peuvent emporter partout avec vous, avec eux, parce que c'est simplement une autosuggestion pour aider justement à faire ce contrôle de la douleur et à faire que le cerveau soit moins. Les centres de la douleur soient moins hyperactifs.
Et je voulais juste ajouter qu'en fait, on a parlé de douleur chronique, mais en fait, on peut vivre avec une douleur chronique. Le tout est de savoir si celle-ci va être supportable. Est-ce que la personne qui a mal
peut la supporter ou non. Et je crois qu'une partie de notre travail est bien là, c'est de rendre supportable cette douleur. À partir du moment où le patient va pouvoir la supporter parce qu'elle va être moins intense, parce qu'il aura compris le mécanisme, parce que pour tout un tas de raisons, eh bien, à ce moment-là, ça ne sera plus une fatalité, j'allais dire, hein, puisqu'on va avancer.
Attendez. Vous levez la main, s'il vous plaît. Juste une chose, vous pourrez voir les docteurs après, si vous voulez, quelques minutes. Il n'y aura pas de consultation, évidemment. Et il n'y aura pas de rendez-vous, de prise de rendez-vous non plus. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main.
Bonsoir. D'abord, moi aussi, je vous remercie pour la conférence. Et bravo, Centre Antidouleur, de la diversité des soins et des traitements pour la douleur. J'ai une question pour l'acupuncture. Comment vous faites au CHU pour le suivi des patients? Est-ce que vous faites comme en Chine, vous les faites revenir tous les jours ou tous les deux jours, ou bien comme en cabinet en Occident, où vous avez un délai un peu plus long en suivant si vous traitez avec la pharmacopée ou pas?
Alors, bonne question. Ça, c'est la grosse difficulté de pratiquer l'acupuncture dans le système occidental de consultation. J'aimerais pouvoir mettre en place, et je vais le faire à mon cabinet, avoir une salle un peu à la chinoise, où, alors sans faire tout à fait comme les Chinois qui font la consultation devant tout un aéropage de patients, de façon un petit peu plus intime, et d'avoir possibilité d'avoir plusieurs patients dans une même salle pour pouvoir... Parce qu'en fait, le principe, c'est que la première consultation est très longue, on décortique tout, et puis après, une fois qu'on sait de quoi on parle et quelle est l'acupuncture qu'on veut faire, surtout pour les douleurs chroniques, c'est pas en une séance que ça se résout, il faut faire 6, 8, 10 séances parfois d'affilée, et là, ce serait très précieux de pouvoir les faire vraiment rapprocher. C'est là qu'on voit les choses, l'état d'équilibre changer et qu'on voit vraiment les choses arriver dans un nouvel état d'équilibre meilleur. Et donc ça, je vais essayer de le faire au cabinet. Alors, à l'hôpital, bon, d'abord, concrètement, on n'y est pas tous les jours. On a les contraintes d'espace. Voilà, donc c'est plus difficile. Du coup, en pratique, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a une première consultation. Et puis après, je dis au patient, ben voilà, vous prenez deux rendez-vous par semaine pendant 3, 4, 5 semaines, s'il faut. Voilà, pour qu'on se voit au moins deux fois par semaine. Puis après, il y a la contrainte aussi de la distance pour venir au centre.
Alors, les Chinois, quand même, font une acupuncture souvent, c'est trois fois par semaine, c'est pas tous les jours. Et pour être allé en Chine il n'y a pas longtemps, il trouve que l'acupuncture chez les Occidentaux est sûrement à faire moins souvent, parce que les Occidentaux ont tendance à mieux répondre que les Chinois eux-mêmes. On ne sait pas très bien pourquoi.
Bonsoir. Dans le cadre des douleurs chroniques, pourquoi donne-t-on quelquefois des antidépresseurs?
Alors, je ne vais quand même pas tout refaire le mécanisme physiopathe de la douleur, mais il faut savoir que l'organisme est bien fait et qu'on a des modes de régulation de la douleur de manière naturelle. Et une des voies, c'est une voie descendante, sérotoninergique et noradrénergique dépendante, d'accord, qui permet d'atténuer la douleur. Donc, en prescrivant des antidépresseurs, principalement sérotoninergiques et noradrénergiques, on renforce cette voie inhibitrice descendante, et par ce biais-là, on a une action antalgique pure. Il ne faut pas croire que parce qu'on met des antidépresseurs, on estime que vous êtes dépressif. Tout notre rôle est de vous expliquer pourquoi on met ces antidépresseurs. Et il faut savoir, il y a des exceptions. Il y en a une seule exception pour la duloxétine. Sinon, tous les traitements ont besoin d'une dose bien moins importante que ce qu'on prescrit dans la dépression pure pour avoir une action antalgique. Bon, je pense que c'est le plus simple. Ouais. Ça va ?
Bonjour, moi j'aimerais savoir, dans le cas de maladies chroniques, que les médicaments ne fonctionnent pas, la kiné non plus, est-ce que c'est à nous d'aller consulter le centre antidouleur quand les médecins et spécialistes ne nous envoient pas du tout ?
Alors, en théorie, on peut, en pratique, on aime moins, mais c'est toujours possible parce qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait eu des examens, enfin, il faut quand même qu'il y ait eu une recherche étiologique sur la pathologie. Si cette recherche a été faite, bien évidemment, au centre, il nous arrive d'accepter des patients, même sans l'être du médecin. D'accord ? En théorie, souvent, j'ai jamais vu, les patients me disent « Mon médecin ne voulait pas vraiment que je vienne vous voir, mais il a fini par me faire le courrier. » Même s'il n'y croit pas, souvent, les médecins font le courrier. D'accord ? Parce que, vous voyez, 40 minutes pour une première fois, les suivis, on les voit un peu plus rapidement, mais c'est très chronophage. Hein. L'éducation thérapeutique, etc., ça prend beaucoup d'énergie. Même si c'est un métier qui, à mon sens, est passionnant. Donc, c'est-à-dire que ça nous est très compliqué, et pour moi, de faire ça de 8h à 18h, enfin, vraiment. Donc, du coup, plus il y a de monde, et forcément, plus les délais vont être longs. Donc, c'est pour ça que quand le médecin adresse, ça permet de faire une certaine sélection sur les cas, pour que ça corresponde bien à l'indication, en tous les cas, d'un centre. Après, c'est vrai qu'on prend tout le monde. Hein. Et puis, sur Poitiers, vous avez quand même la chance, et vraiment, d'avoir un centre avec des délais qui restent raisonnés. Et parce qu'ailleurs, c'est beaucoup plus long. On est plutôt de l'ordre de 6 à 8 mois pour avoir un rendez-vous. Nous, ici, on est plutôt de l'ordre d'un à deux mois de consultation, et quand il y a des urgences, on arrive justement à avoir une réactivité de 48 à 72 heures assez facilement. Alors, en douleur chronique, il y a très peu d'urgence au sens propre, mais en tous les cas, il nous arrive de voir les gens quand il y a une demande du médecin assez rapidement. Moi, sinon, on est de l'ordre d'un ou deux mois.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la douleur du membre fantôme, s'il vous plaît ?
Alors ça, c'est un vaste sujet, et du coup, il y a toute une histoire de plasticité cérébrale, hein, dans les douleurs de membre fantôme. Ça s'apparente quand même à des douleurs un peu neuropathiques, hein, dans la prise en charge, en tous les cas. Une des hypothèses serait, maintenant, ils essayent sur l'appareillage, plus l'appareillage est fait de manière rapide après l'amputation, quand c'est possible sur un membre inférieur, c'est bien, en tous les cas, plus l'appareillage est précoce, et moins on a de douleurs de membres fantômes. Parce qu'en fait, ça habitue, c'est une histoire de plasticité cérébrale, hein. C'est un peu comme dans le ZERK, hein. C'est-à-dire que, grosso modo, votre cerveau, dès qu'il est appareillé, on voit deux mains ou deux jambes qui arrivent à bouger, on voit qu'il n'y a pas forcément de douleur, et du coup, il n'y a pas de mémorisation de la douleur, etc. Plus c'est pris tôt, et mieux c'est. Après, dans les douleurs de membres fantômes, on peut avoir l'électrostimulation transcutanée qui peut donner des résultats assez intéressants. Enfin, il y a des choses à proposer, mais ce qui est primordial, ce que montrent les études, c'est plus l'appareillage est précoce, d'où l'intérêt d'avoir des très bonnes chirurgies qui sont faites, parce que en post-opératoire, il faut une belle cicatrisation, etc., parce que forcément l'appareillage dépend de la bonne cicatrisation et de la bonne chirurgie du geste amputatoire. Mais en tous les cas, l'appareillage précoce, c'est le mot, avec une mobilisation rapide, etc., c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats au long cours sur ces douleurs de membres fantômes. Mais les douleurs de membres fantômes, souvent ça se traite comme on prendrait en charge une douleur neuropathique, et je vois Marie-Lette qui se précipite sur le micro. Bien évidemment, l'acupuncture doit pouvoir aider.
Oui, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, l'acupuncture peut aider. Et surtout que l'acupuncture, souvent, on fait l'acupuncture à distance, c'est-à-dire qu'on ne va pas là où c'est douloureux, et par le jeu de résonance entre les méridiens. Et du coup, il peut y avoir des résultats vraiment très, très intéressants sur les douleurs fantômes, en allant justement travailler généralement sur les autres membres.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai plein de questions écrites, donc je vais y arriver. Ok. La mémoire garde le souvenir de la douleur. Vous l'avez dit, comment peut-on agir sur le cerveau pour qu'il ne garde pas en mémoire la douleur ?
Alors, d'où l'intérêt des thérapies cognitivo-comportementales ou toutes ces techniques qui vont agir alors sur le système limbique en priorité, mais pour justement agir sur cette mémorisation de la douleur. Et puis, souvent, il ne faut pas un geste, par exemple pour des soins, un geste douloureux. Un premier geste douloureux, il faut 10 gestes non douloureux derrière pour que le 11e se passe bien. D'accord ? Donc, en fait, la mémorisation se met en place très, très rapidement. Et pour agir sur cette mémorisation, l'hypnose aussi doit pouvoir agir sur ça, le mindfulness. En fait, c'est toutes ces techniques-là, hein, plus que le médicamenteux. Et les antidépresseurs sérotoninergiques montreraient quand même aussi une efficacité sur cette mémorisation.
Que pensez-vous des méthodes thérapeutiques de reprogrammation des cellules pour soigner une douleur chronique ?
Alors, est-ce qu'on peut répéter la question déjà ?
Je vous la refais une deuxième fois. Ce sera la dernière. Que pensez-vous des méthodes thérapeutiques de reprogrammation des cellules pour soigner une douleur chronique ?
Alors, est-ce, c'est ce qu'on appelle la médecine quantique ?
C'est Je ça, pense le, que c'est ça.
C'est ça, oui. Alors, personnellement, enfin bon, je ne sais pas, peut-être mes collègues en savent plus que moi là-dessus. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans cette médecine. Elle m'interpelle, comme on dit, parce qu'elle fait appel aux techniques, enfin aux connaissances de la physique théorique contemporaine. Pour des raisons personnelles, ça m'intéresse de près, et sa jonction avec la médecine. Et je pense que c'est un champ de recherche fabuleux dans notre monde contemporain. Alors, je pourrais encore parler de méridien de médecine chinoise, mais ça va agacer Élodie. Mais là, c'est sûr qu'il y a un champ de recherche énorme dans ce domaine. Et en médecine quantique, moi, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais il y a sûrement des choses intéressantes à tirer de ce côté-là. Voilà, je ne sais pas si...
Okay. Est-ce qu'il y a une évolution dans les médicaments et dans leurs effets secondaires ? Est-ce qu'il y a une évolution dans les médicaments et leurs effets secondaires ? On a parlé, le docteur Charry a parlé d'effets secondaires tout à l'heure en début. Est-ce que justement on va vers des médicaments qui ont moins d'effets secondaires ?
Non.
Merci.
Non, tout est une question en fait, et c'est important, c'est toute la question, et comment on amène le médicament, quelle dose on a mis, comment on a fait la croissance thérapeutique, parce que, et je vais citer très rapidement, ça va parler aux gens, le tramadol a une très mauvaise réputation, notamment sur les effets indésirables, et pour autant c'est un excellent antalgique, et du coup, effectivement, quand on donne à un patient une forme à libération immédiate du 100 mg, bien évidemment, on n'est plus à risque d'avoir des effets indésirables que, par exemple, sur des galéniques mix où on n'amène que 37,5 de principes actifs ou sur des formes à libération prolongée de que de 50 mg. Donc, en fait, pour parler d'effets indésirables, et c'est important, et parfois les patients râlent parce qu'on insiste, mais vraiment, c'est comment on amène le médicament et quelle dose on met d'emblée, quoi, parce que ça change tout.
On me demande aussi comment on passe entre les mains du docteur Charrier au docteur Costa Fournel.
Il faut me faire un joli sourire et je dis d'accord, vous pourrez aller voir Madame Costa Fournel. Non, en fait, comment ça se passe ? C'est-à-dire que, et moi je m'y attache, le premier entretien que j'ai, c'est vraiment savoir ce que veut le patient. Si le patient me dit, moi, je ne veux pas du tout de médicaments, alors ça fait plaisir à personne de prendre des médicaments, mais s'il me dit, on ne prend pas ça pour le plaisir, si le patient me dit, oui, alors on a essayé plein de choses, mais vous savez, les médicaments, j'ai fait plein d'effets indésirables, en pratique, ça ne sert à rien de lui faire ressortir avec une ordonnance, puisque soit il ne le prendra pas, ou soit... il n'a tellement pas envie de le prendre qu'il va avoir des effets indésirables. D'accord ? Donc, dans tous les cas, on a perdu. Donc, c'est une discussion. On essaye de trouver des techniques. Et puis, si je pense que Madame Costa Fournel peut aider le patient, eh ben, bien évidemment, on passe par le biais secrétariat et la personne prend son rendez-vous. Et puis, on a un petit peu un accord toutes les deux. parce qu'on travaille quand même bien ensemble. On ne mélange pas les deux, c'est-à-dire qu'une fois que Mme Costa-Fournet le prend en charge pour acupuncture, on ne fait pas de modification thérapeutique dans l'intervalle, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, on ne sait plus qui fait quoi. D'accord ? On est d'accord ?
Oui. Enfin, bon, sachant qu'il est possible aussi, moi, il arrive parfois que les patients viennent directement au centre et demandent à être à ma consultation ou à celle de Jean Boucher quand la question, la demande est acupuncture. Donc ça peut aussi être une entrée directe, j'allais dire. Et alors c'est vrai que pour le suivi en commun, il y a quand même pas mal de patients qu'on suit en parallèle. Et alors moi, c'est vrai que de principe, je n'interfère jamais avec les traitements occidentaux parce que sinon, si chacun commence à faire ses propres modifications, ça ne va pas. Par contre, il arrive que des médicaments évoluent pendant que je fais l'acupuncture.
Oui.
Mais c'est le médecin qui
mais
est en charge
au début.
De cette prise
en charge.
Moi,
en tous les cas, je peux parler que pour moi. Hein. C'est-à-dire que vous avez bien compris que tous les médecins de la douleur ne vont pas faire la même chose. D'accord ? C'est un traitement à la carte, c'est en fonction des convictions, etc. Il y a c'est vraiment une spécialité qui est très praticien dépendant. D'accord ? Et je ne dis pas que je suis meilleure que les autres, loin de là, c'est-à-dire qu'il en faut pour tout le monde. Mais si moi, pour qu'on voit vraiment les bénéfices d'une technique, il faut que parallèlement, les autres traitements soient stables, sinon on ne sait plus. Si, une fois la phase d'induction, on sait que l'acupuncture marche, bien évidemment, on adapte les traitements après, mais on est dans la consolidation ou en tous les cas sur le long terme et c'est différent.
Alors, oui, tout à fait. Et j'ajusterai juste une chose, c'est que pour certaines pathologies chroniques, enfin de douleurs chroniques, et aussi sur certains types de médicaments, de traitements, en particulier morphiniques, j'ai le sentiment, c'est complètement subjectif parce que j'ai jamais vu d'étude là-dessus, mais que plus l'acupuncture est démarrée tôt, avant en particulier la mise en place de traitements lourds, je pense essentiellement à nouveau aux morphiniques, l'acupuncture répond beaucoup plus vite. Et on a besoin de moins de séances pour avoir des résultats. Et voilà. Donc c'est aussi, je passe ce message auprès des patients. Si vous souhaitez avoir ce genre de technique à un moment ou à un autre, à mon sens, il y a intérêt à démarrer vite. Pas attendre d'avoir tout essayé, tous les médicaments, tous les traitements, d'avoir déjà une ordonnance assez chargée pour arriver finalement à l'acupuncture. Ce qui est encore beaucoup, beaucoup ce qui se passe en France en général. Et
ce qui est important, c'est qu'il faut adhérer à ce qu'on vous propose. Si les patients n'adhèrent pas, bien évidemment, on a une perte de chance d'efficacité.
Merci à vous trois. On pourrait bien sûr en continuer à parler du sujet pendant des semaines et des semaines. Je voudrais remercier donc les intervenants qui ont été très clairs. Je pense qu'on a vraiment abordé pas mal de choses. Je vous demanderai encore une toute petite seconde d'attention, s'il vous plaît. Merci au CHU, à l'Espace Mendès France, à l'équipe technique, à vous public évidemment. Vous pouvez aussi, je vous le disais tout à l'heure, réécouter toutes les interventions sur le site internet du CHU ou de l'Espace Mendès France. Pensez à remplir le formulaire d'évaluation, c'est important pour nous. Et puis je vous donne un prochain rendez-vous avec le Pôle Info Santé. Ce sera le 3 décembre, à quelques semaines de Noël. Nous parlerons alimentation et santé. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci.